Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le centre Pompidou a 40 ans. L'établissement parisien célébrera son anniversaire le week-end prochain. À lui seul, il symbolise le volontarisme en matière de politique culturelle, mais aussi cette étrange tradition qui consiste à coller le nom d'un président à un lieu dédié à la culture. Si bien qu'à la question « qui a le plus besoin de politique culturelle ?», on pourrait répondre « ceux qui ont exercé le pouvoir pour preuve de leur passage ». Bien entendu, on ne peut résumer celle-ci au rêve de grandeur et de postérité de ceux qui nous dirigent. La politique culturelle sert aussi au rayonnement de la France à l'étranger, à l'aménagement de son territoire, à l'activité économique, au dynamisme de l'emploi. Surtout, c'est une politique censée favoriser l'accès du plus grand nombre à la pratique artistique et à l'offre culturelle. Une double ambition aussi ancienne que le ministère de la Culture, créé en 1959, il y aura bientôt 60 ans, mais qui reste encore au rang des objectifs à atteindre. Alors, qui a le plus besoin de politique culturelle ? C'est la question que nous allons poser ce soir. Nous allons essayer d'y répondre au maximum, mais le sujet est tellement vaste qu'il y aura forcément des pans de cette question que nous ne pourrons pas aborder. Nous allons en tout cas essayer de faire au mieux avec vous, Aurélie Filippetti. Bonsoir.
Bonsoir.
Députée PS de Moselle, vous avez été ministre de la Culture et de la Communication de 2012 à 2014. Et pour discuter avec vous, François de Mazières, bonsoir.
Bonsoir.
Députée maire de Versailles, vous avez été le conseiller culture de Jean-Pierre Raffarin. Lorsqu'il était à Matignon, à partir de 2002. Et vous signez un livre qui sera bientôt publié chez Albin Michel, Le Grand Gâchis Culturel. Et puis, puisque nous sommes le premier jeudi du mois, nous sommes en partenariat avec le journal La Croix. Et quand on parle du journal La Croix, on pense forcément à Guillaume Goubert. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Hervé.
Directeur du journal. Je rappelle le principe, c'est depuis la rentrée de septembre, chaque premier jeudi du mois, nous abordons un des grands sujets de la présidentielle. Et d'ailleurs, cette question de la politique culturelle, elle est abordée avec vous deux, Aurélie Filippetti et François de Mazières, dans l'édition du jour du journal La Croix. Alors, je voudrais commencer par une première question qui est sans doute la moins essentielle, mais qu'on pourra peut-être évacuer assez rapidement. Revenir un petit peu à ce que je disais au tout début de la présentation du sujet, cette manie, je ne sais pas si c'est une manie française, mais d'avoir des bâtiments qui portent la marque du passage au pouvoir de quelques présidents. Il y a le centre Pompidou, mais on a désormais le musée du Quai Branly Jacques Chirac, il y a la bibliothèque François Mitterrand. Est-ce que c'est une pratique qui vous semble un petit peu aujourd'hui en déshérence, les grands projets qui portent la marque d'un président? C'est quelque chose qui appartient au passé, d'après vous, Aurélie Filippetti?
En tout cas, ça ne correspond plus aux besoins aujourd'hui du pays, parce que la France est un pays qui est bien équipé en matière de, justement, de ces gros investissements, ces grosses institutions. Et à Paris, bien sûr, et beaucoup à Paris, malheureusement, mais ça, c'est le legs de l'histoire. Mais il y en a aussi ailleurs dans les régions. Je pense au MUCEM, qui a été inauguré il y a 3 ans maintenant, qui est à Marseille, le Louvre-Lens, le centre Pompidou-Metz. Donc, on voit qu'on a sur tout le territoire de la République, le territoire est émaillé de ces grandes institutions. Donc, il faut penser autrement maintenant la nécessité d'avoir des investissements qui soient vraiment destinés à transformer à la fois les pratiques, à démocratiser, à ouvrir et à donner accès. Ben toujours cette question, c'est donner accès à ceux qui en sont le plus éloignés.
François de Mazières.
Oui, je crois que vous avez cité des exemples qui sont tout de même très emblématiques de la politique culturelle française. Alors effectivement, l'objectif numéro un, c'est sans doute cette démocratisation culturelle, mais il ne faut pas négliger également cette exigence de qualité, de référence. Quand vous parlez du centre Pompidou, c'est pas lui qui a donné le nom à ce. Il y a eu le fait que ce président s'est beaucoup mobilisé sur la question de la valorisation de la création culturelle. C'était une bonne chose. Ça renouvelait, il faut bien dire, aussi ce domaine. Après, la TGB, ça a marqué la période de Mitterrand, François Mitterrand.
TGB, c'est la très grande bibliothèque.
La très grande bibliothèque. Et au fond, que des présidents de République aient une vraie volonté culturelle, c'est important. Et aujourd'hui, nous sommes dans un débat autour d'une présidentielle. Et on regrette un petit peu que dans ce débat, il n'y ait pas une volonté affichée de mettre la culture au premier plan.
François Hollande l'avait, cette volonté, en tout cas, à l'été 2012, puisqu'il était allé au Festival d'Avignon. Et il avait notamment répondu à l'agence Reuters en disant « Il y a un moment où un président doit porter un grand projet. Ce n'est pas simplement un grand équipement, cela peut être une grande ambition. Mmh. » En tout cas, cette nécessité que quand on est au pouvoir, il faut aussi peut-être marquer son passage par un grand projet culturel, Aurélie Filippetti.
Mais ça, ce n'est pas nouveau. Ça ne date pas d'ailleurs de la 5e République. Ça a été toujours lié à l'histoire des grands hommes, enfin, depuis l'Antiquité. C'est les monumenta. C'est ce qu'on va laisser à l'avenir, à la postérité de son passage au pouvoir.
Bah, François de Mazières, lien... qui est maire de Versailles, on peut dire
bah,
qu'à
oui,
Versailles, il y a quand
exemple,
même le symbole.
Bah, oui, il est quand même maire de la ville qui incarne cela, et le siècle de Louis XIV est celui aussi qui a parsemé notre pays. Mais enfin bon, avant, les empereurs romains, c'était la même chose. On marquait justement, non seulement son époque par son action, mais aussi les époques à venir. C'était une manière finalement pour les chefs d'État, eh bien, d'atteindre ou d'espérer atteindre une sorte d'immortalité. Et c'est vrai que c'est leur monument qu'on retient davantage que leur victoire militaire.
Il faut sortir en tout cas aujourd'hui de cette approche-là, cette nécessité-là est moins présente pour vous, François de Mazières.
Écoutez, je pense qu'il faut concilier justement la volonté d'imprimer une marque, et cette marque, c'est la culture française. C'est tout de même essentiel aujourd'hui. C'est notre fierté, c'est l'originalité française. Donc je pense qu'il est bon d'avoir une grande ambition. Après, la traduction, elle peut être un monument ou elle peut être autre chose. Mais soyons clairs, ce qui manque aujourd'hui, c'est plutôt l'ambition. Voilà. Et s'il fallait résumer, tant mieux qu'il y ait eu des chefs d'État qui ont porté, à travers des monuments, une très grande ambition. Et quand François Hollande disait « je cherche une grande ambition » alors qu'il était déjà élu, moi, ça m'a mis mal à l'aise. Parce que je pense qu'un président de la République, au moment où il est élu, il doit déjà avoir son grand dessein. Et il faut savoir quel est son grand dessein culturel. C'est essentiel.
On verra si ça fait l'objet du débat de la présidentielle.
Ce qu'il faut dire, c'est que les présidents qui ont laissé des grandes traces en matière architecturale ou monumentale, ils avaient effectivement une grande vision de ce que devait être la culture dans un projet de société. C'est-à-dire que François Mitterrand, son projet culturel, ça ne se limitait pas à la Grande Bibliothèque ou à la Pyramide du Louvre. Ça en a été le symbole. Mais il y avait toute cette politique, justement, à destination de tous les territoires, à destination des jeunes, à destination des publics les plus éloignés de la culture, l'augmentation massive, hein, plus de 50% du budget de la culture, enfin, et dans tous les domaines, faire venir des nouvelles esthétiques, des nouvelles écoles artistiques dans le champ de la reconnaissance institutionnelle. C'était ça la politique de Jack Lang et de François Mitterrand. Elle s'est trouvée
qu'on
symbolisée.
Qu'on retrouve d'ailleurs avec De Gaulle-Malraux.
Oui, ou qu'on retrouve avec Malraux ou avec Pompidou, qui avait aussi
Pompidou,
le centre Georges Pompidou. Il incarne justement une certaine vision qu'avait Pompidou de la place de la culture centrale dans la société, qu'il vivait d'ailleurs lui-même dans son être le plus profond.
On ne peut pas séparer
les deux. Il n'y a pas de grand monument qui reste s'il n'y a pas eu un moment de grande vision.
Au fond, je crois que la culture, c'est toujours une affaire de passion. Que ce soit au niveau local, quelqu'un qui est engagé d'une association, il est passionné et il va apporter une vérité. Et il faudrait retrouver au niveau de l'État la même chose. Vous ne pouvez pas avoir une vraie volonté politique culturelle sans qu'elle soit portée avec une véritable passion par le responsable du moment. Et c'est ça, je pense que Aurélie Filippetti et moi, on se rejoint là-dessus.
Guillaume Goubert.
Oui, j'aimerais qu'on parle d'accès à la culture et si je pouvais même préciser, d'accessibilité aussi. Et nous avons publié dans La Croix il y a peu de temps un article sur une initiative dans des bibliothèques où il y a des présentoirs avec marqué dessus « livres faciles à lire ». Et est-ce que on est aujourd'hui suffisamment préoccupé dans la conception des politiques culturelles de rejoindre, comme on dit, les personnes là où elles en sont, pas forcément très très bien armées sur le plan culturel, mais à qui on peut faire de premiers pas vers cet univers.
François de Mazières.
Je crois qu'il faut toujours dans la culture à la fois avoir l'ambition de permettre à tous d'y accéder. C'est essentiel, c'est fondamental. Vous le retrouvez même dans le décret constitutif du ministère des Affaires culturelles créé en 59 par Malraux. Et en même temps, se dire qu'il faut avoir une exigence de qualité si on veut aller plus loin. Et c'est ça vraiment une politique culturelle. C'est avoir le souci de celui qui a une difficulté à accéder à la culture et en même temps se dire, peut-être celui-ci, même si au départ il avait une vraie difficulté à y accéder pour des raisons d'origine sociale, s'il a la fibre, s'il a envie d'aller plus loin, il ira plus loin. Et moi, je suis très attaché, par exemple, à la défense des conservatoires. C'est une chose... Qui ont souffert dernièrement. Je me suis battu en tant que parlementaire parce que j'ai dit, attention, il ne faut pas mettre en contradiction cette ambition démocratique qui est fondamentale, qui est constitutive d'une politique culturelle en France, de la volonté de permettre l'excellence. Et la France, c'est ça.
Sur cette question de l'accessibilité culturelle, Aurélie Filippetti, alors est-ce que ça fait partie de ce que doit être une politique culturelle? C'est pas un thème extrêmement nouveau, hein, celui de l'accessibilité, ça date. Là aussi, on a l'impression qu'on finalement on n'y arrive jamais. Peut-être parce qu'on prend pas la question par le bon bout, c'est-à-dire plutôt que de rendre accessible certaines formes culturelles, qu'il faudrait pas plutôt se dire, il faudrait que la culture populaire, notamment. Soit aussi hissé au rang de culture à part entière. Est-ce qu'on est encore dans ces questions-là ?
Non, je pense que aujourd'hui, on sait très bien que effectivement, il y a des formes, et ça, c'est le legs aussi des années Mitterrand-Lang, les formes de culture populaire qui sont devenues partie intégrante d'une culture totalement reconnue, noble en quelque sorte. Il y a les esthétiques urbaines, le hip-hop, le graff, le slam aujourd'hui. Enfin, personne. Il y a encore des attaques, bien sûr, mais il y a quand même eu de grands progrès là-dessus. Mais pour moi, l'accessibilité, elle n'est pas antinomique avec la qualité. C'est-à-dire que moi, je considère que le rôle d'une politique culturelle, c'est de permettre, par petits pas, eh bien, de rendre accessibles, y compris les œuvres les plus exigeantes, et à tous les publics. C'est-à-dire qu'il faudrait pas... Le pire, ça serait de considérer qu'il y a, je sais pas, les jeunes des quartiers populaires, on doit forcément leur faire écouter du hip-hop ou du rap, et leur faire danser du hip-hop et leur faire écouter du rap. Et que les habitants de la ville de François de Mézières, eux, doivent écouter forcément de l'opéra baroque. Mais pourquoi ? Non, alors...
Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, Aurélie Filippetti, qu'une politique culturelle réussie en termes d'accessibilité, ça serait une politique qui permettrait, alors, à des, mettons des jeunes de banlieue d'aller à l'Opéra Bastille.
Mais bien sûr, ça existe d'ailleurs. Et il y a des expériences formidables. Moi, je me suis beaucoup battue pour que les enseignants, les profs, dans leur formation, dans les écoles supérieures du professorat et d'enseignement, ils aient eux-mêmes des formations notamment à l'opéra, au théâtre, etc., et qu'ils apprennent à transmettre les pratiques culturelles. Parce que les enseignants sont les premiers vecteurs, finalement, de ce genre de pratiques. Et d'ailleurs, moi-même, j'avais eu cette expérience quand j'étais jeune prof, j'avais eu la chance d'avoir un module de formation, justement, sur l'opéra, avec l'Opéra de Paris. C'était absolument extraordinaire. On sait que l'orchestre, le projet Demos, c'est-à-dire le projet, en fait, de classe orchestre, qui se fait maintenant dans toute la France, qui n'est plus limité à Paris et à la Philharmonie, mais qui a été lancé par la Philharmonie de Paris. Eh bien, ce projet où on va finalement choisir des enfants de quartiers défavorisés qui n'ont jamais touché un instrument et on va leur donner un instrument de musique classique pendant 3 ans et on va leur apprendre avec des musiciens professionnels à jouer, tout ça, ça fait que ces enfants, au bout de 3 ans, ben, la plupart d'entre eux continuent la musique. Et en plus, ils ont des meilleurs résultats scolaires.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous aviez répondu à une interview du Point, lorsque vous étiez encore ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, à propos de l'éducation artistique. Oui. Vous disiez notamment que ça ne marche pas car les profs n'en veulent pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aussi une difficulté ?
Non, j'ai jamais dit ça.
C'est ce qui sort.
Pourquoi ?
Voilà. Alors,
c'est l'éducation nationale qui n'en voulait pas. Non, j'ai pas pu dire ça parce que vraiment, je pense exactement le contraire. Il y avait un problème avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais au contraire, les enseignants, et d'ailleurs, j'ai visité un nombre impressionnant d'initiatives un peu partout en France. Par exemple, je pense à des collèges de Seine-Saint-Denis où il y avait des artistes en résidence pendant toute une année scolaire. C'est extraordinaire parce que justement le travail se fait avec les enseignants. Et les enseignants d'ailleurs, premièrement, en sont ravis, deuxièmement, savent que c'est très bon pour leurs élèves, y compris dans les matières scolaires.
François de Mazières, l'éducation artistique et culturelle et l'accessibilité à la culture, ce sont deux sujets qui vont forcément ensemble.
C'est absolument fondamental et je crois qu'effectivement, il faut souligner le rôle de l'éducation nationale. Parce que, on l'a dit depuis tout à l'heure, il est essentiel que tout le monde puisse accéder à la culture. quelles que soient les origines sociales. Il y a un système, c'est l'éducation nationale, qui est censé s'adresser à tout le monde. Et je crois que le premier des rôles, c'est que l'éducation nationale doit donner cette possibilité de sensibilisation. Alors, il y a deux choses. Il y a, je dirais, ce qu'on peut qualifier d'humanité. C'est-à-dire la connaissance un peu minimum de notre histoire de l'art, la connaissance de l'histoire de la littérature. Et ça, il faut absolument que l'éducation nationale puisse diffuser cet enseignement. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'ai un peu regretté qu'on abandonne ce qui avait été lancé en 2009 par Christine Albanel et Xavier Darcos, qui était l'enseignement de l'histoire des arts à travers les cours d'histoire. Je pense que c'était... C'était une bonne réforme, parce qu'elle touchait tout le monde. Et à côté de ça, il faut la pratique artistique. Et là, c'est vrai, et ce que rappelait à l'instant Philippe Petit, l'ouverture sur des artistes de l'école est essentielle. Parce que pour donner le goût de la pratique artistique, il faut parler à des professionnels. Ils vont parler avec leurs tripes. Et pour avoir cette qualité, finalement, que l'on a de relationnel avec un artiste, il faut que ça soit vraiment des professionnels. Et c'est vrai que les ouvertures, toutes les ouvertures, il y en a des tas de formes qui ont eu lieu entre les écoles primaires jusqu'au lycée, sur des artistes, sont d'excellentes initiatives.
Certains suggèrent de fusionner le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Je crois que c'est notamment Jean-Jacques Ayagon qui évoque cette piste. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça serait une bonne façon de faire rentrer davantage l'éducation culturelle à l'école?
Alors, il y a eu une expérience, c'est du temps de Jacques Lang, mais Jacques Lang avait été ministre de la Culture pendant 8 ans. Donc, cette expérience, elle est faussée. Jacques Lang avait une très grande réputation comme ministre de la Culture, et donc il arrive à l'Éducation nationale, et à ce moment-là, il s'implique effectivement fortement avec son équipe pour essayer que l'Éducation nationale porte ce message culturel. Et ce faisant, la dimension ministère de la Culture stricto sensu n'a pas été négligée. Mais soyons clairs, si vous faites aujourd'hui un ministère géant, vous avez l'Éducation nationale et la Culture, c'est la Culture qui va être traitée en second plan.
Et vous en France, vu, vous, il ne faut Petit, pas... ministre de la pas. Culture et de l'Éducation nationale.
Je crois qu'il faut trouver le moyen de faire travailler les deux ministères ensemble sans évidemment fondre le ministère de la Culture dans celui de l'Éducation nationale. Parce que c'est tellement disproportionné qu'évidemment le risque c'est qu'il soit avalé.
Yann Goubert.
On pourrait parler un petit peu d'exception culturelle à l'ère d'Internet. Je lisais chez un confrère une information selon laquelle le Danemark va nommer un ambassadeur, et vraiment un membre du corps diplomatique, un ambassadeur auprès des grandes entreprises numériques, Google, Facebook, Apple, etc. Est-ce que ça vous paraît une idée intéressante de reconnaître finalement ces entreprises comme des sortes de puissances étatiques avec lesquelles il faudrait entretenir des relations diplomatiques? Mais plus largement, comment est-ce qu'on continue à faire vivre notre identité culturelle dans un monde qui est aujourd'hui dominé par de tels géants?
Aurélie Philippe Petit.
C'est une question qui est la question majeure des prochaines années, qui est très difficile parce qu'elle doit, elle devrait en tout cas être traitée à l'échelle européenne. On a déjà réussi à sauver l'exception culturelle en 2013 dans le combat notamment contre le TAFTA. Mais malheureusement, c'était compliqué même au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire en gros, on avait les ministres de la culture de la plupart des pays qui étaient avec nous, mais en revanche, les chefs de gouvernement n'étaient pas avec nous. Donc il faudrait déjà que l'ensemble des États membres de l'Union européenne soient conscients de l'importance qu'il y a à ce que l'Europe parle d'une seule voix face à ces géants du numérique, qui sinon captent complètement la valeur et tuent la diversité culturelle. Le risque, c'est ça. Il faut bien comprendre que, en fait, les algorithmes qui permettent de s'orienter, de trouver telle ou telle œuvre quand on ne la cherche pas, eh bien, ce sont des algorithmes qui sont faits pour tout, sauf pour la diversité culturelle. Ils sont faits dans des buts lucratifs. Et donc, il faut qu'on réussisse à faire prévaloir cet intérêt général qui est incarné par ce qu'on appelle l'exception culturelle en France, et qu'on a réussi à faire prévaloir sur la scène internationale, mais il faut maintenant qu'on l'adapte à l'ère du numérique. Ça, c'est très, très difficile, c'est un enjeu majeur.
François de Mazière.
Oui, c'est certainement effectivement le grand combat des années à venir, parce que les GAFA, pour pas les nommer, c'est la tyrannie finalement de l'argent sur la culture.
Donc je rappelle Google, Amazon, Facebook, Apple.
Et on le voit aujourd'hui. tout la fierté aussi de la France a été d'avoir créé les droits d'auteur. Et on sait, c'est l'action de Montmarchais. Et les droits d'auteur permettent aux artistes de vivre. Il y a, à travers cette toute-puissance économique de ces grands groupes internationaux de l'Internet, il y a un risque majeur, et on le voit notamment sur la musique, hein, où les revenus tirés par la diffusion des œuvres des musiciens se sont effondrés. Donc, il y a un enjeu majeur. Et comme à l'instant, Olivier Petit l'évoquait, il y a aussi ce problème des algorithmes. L'algorithme, au fond, il va analyser ce que vous écoutez et il va vous proposer, dans une démarche purement mercantile, pour que vous écoutiez encore davantage, il va vous proposer la même chose. Et donc la culture, c'est une ouverture d'esprit. Pourquoi on se bat pour la culture ? C'est pour avoir cette capacité à comprendre l'autre. Et aujourd'hui, c'est très essentiel. Et je crois qu'il faut affirmer le rôle de la culture aujourd'hui, d'autant plus fortement qu'on voit bien que notre société se cloisonne de plus en plus, refuse.
Mais François de Mazières, par rapport à ce risque-là, qu'est-ce que peut une politique culturelle ? C'est-à-dire, comment est-ce que des pouvoirs publics, en fait, à travers une politique qui est décidée, peuvent contribuer à ce que l'accès, les propositions culturelles restent diversifiées en dépit de la présence de ces algorithmes.
Ah ben, très clairement, la première des choses, si vous voulez, c'est que tout le monde soit traité au niveau d'égalité. Le problème des GAFA, on va peut-être maintenant prendre le sigle, c'est qu'ils ont des avantages extraordinaires d'un point de vue concurrentiel, tout simplement par une fiscalité qui est totalement dérogatoire, puisqu'ils sont des groupes mondiaux et qu'ils évitent bien de payer la fiscalité française. Donc la première des choses, c'est effectivement d'agir au niveau européen pour imposer déjà que ces grands groupes ne fassent pas des profits vertigineux aux dépens du quotidien de la culture. Donc c'est ça la première action concrète. Après, si vous voulez, quel est l'enjeu pour nous ? C'est qu'il y ait une autre proposition que celle des GAFA. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un retour de la culture de proximité. Ce que nous vivons sur le terrain, c'est que vous avez une soif, une appétence des Français pour justement pratiquer une culture qui soit une culture parfois de quartier, de ville, et c'est peut-être ça un des espoirs. C'est-à-dire que on a la capacité aujourd'hui à la fois d'avoir une ouverture mondiale qui est très intéressante. Il ne faut pas jeter Internet, c'est un outil merveilleux aussi. C'est un outil qui peut être un outil merveilleux de culture. Mais il faut savoir l'encadrer et par ailleurs, il faut permettre ce développement de culture en proximité. C'est l'enjeu de demain.
Mais justement, Olivier Petit, en défendant peut-être de manière un peu trop importante l'exception culturelle française, est-ce qu'on ne se prive pas de la possibilité de faire rayonner cette culture à l'international ? Est-ce qu'on n'est pas dans ce qui relève d'une politique protectionniste qui serait antinomique avec le rayonnement de la culture française à l'étranger ?
Non, au contraire, parce que ce qu'apprécient justement les étrangers, c'est cette volonté farouche de la France de défendre un modèle qui n'est pas un modèle nationaliste. On ne défend pas simplement les artistes de la culture française, on défend la place de la culture comme une place spécifique dans toute société humaine et dans un projet finalement d'émancipation individuelle. Et c'est ça qui nous est reconnu et dont beaucoup de gens nous sont reconnaissants partout dans le monde. Quand on a défendu l'exception culturelle en 2013, on avait le soutien d'artistes de tous les pays, y compris d'ailleurs de cinéastes américains qui disaient « mais nous, on aime beaucoup la France puisque les Français vont beaucoup au cinéma ». Ils vont voir beaucoup de films français, mais ils vont aussi voir des films chinois, taïwanais, italiens ou américains. Et donc, on voit bien que la culture, c'est pas quelque chose de malthusien. C'est plus on va au cinéma, plus on a envie d'y aller, plus on lit de livres, plus on a envie d'en lire. Donc, notre rôle à nous, le rôle de la France, c'est de continuer à défendre cette diversité. Et d'autre part, la diversité culturelle, moi, je me souviens d'avoir eu des discussions avec des ministres des pays baltes, par exemple, qui avaient très, très peur de l'hégémonie russe, qui disaient, mais nous, on veut défendre justement aussi notre diversité culturelle. C'est valable partout dans le monde. Il y a cette volonté-là de préserver. Ce qui est magique dans la culture, c'est que la spécificité de chacun vient rencontrer en quelque sorte l'intersubjectivité et l'universalité. Et donc en préservant la spécificité de chacun, ben, on contribue à la meilleure compréhension de tous.
Guillaume Hubert.
On parlait de Louis XIV tout à l'heure. L'État en France a toujours joué un rôle important dans la culture, enfin dans tous les domaines de la vie sociale, mais notamment dans la culture. Est-ce que, François de Mazières, est-ce que c'est quelque chose qui doit évoluer maintenant? Est-ce qu'il faut faire davantage de place à d'autres acteurs, acteurs du secteur privé, acteurs associatifs, acteurs locaux?
Je pense que l'État a un rôle majeur à jouer en matière culturelle et qu'il ne faut surtout pas, aujourd'hui on ne parle pas assez de culture, de dire que c'est à d'autres d'assumer le rôle. L'État doit avoir une place importante. Personnellement, moi je me bats pour des critères comme le 1%, parce qu'ils sont des symboles forts. Il faut que l'État finance la culture et le finance correctement.
On y revient au 1% avec le budget 2017.
Absolument.
Ça a baissé au début du quinquennat.
Mais alors, permettez-moi de dire, il y a eu Aurélie Filippetti, le sait, et je pense que ça n'a pas été facile pour elle à vivre. Il y a eu une baisse importante en 2013-2014, jusqu'à 2015. Et puis, il faut reconnaître qu'il y a une augmentation, mais sur le budget 2017. Et quand vous faites un quinquennat, c'est vrai que aller voter des crédits en forte augmentation la dernière année, alors que c'est d'autres qui vont le gérer, c'est un peu facile, objectivement. Mais bon, c'est un aparté, je réponds à votre question. Il est essentiel que l'État ait non seulement des financements, mais une vision. Ce que je reproche un petit peu sur ces dernières années, c'est qu'on n'a plus vu la vision. On a dit « je cherche un grand projet », puis on n'a pas vu le grand projet. Ouais, il faut une grande loi. Et la grande loi, on l'a vue à la fin. Et normalement, ça devait être une loi sur le patrimoine, une loi sur la création. Puis finalement, on a mixé tout ça et on a eu un texte qui était tout de même un peu imbuvable et qui ne permettait pas de voir quelle était l'ambition réelle. Donc, la place de l'État est fondamentale. À côté de ça, le rôle de l'État, c'est aussi de dire « je joue pleinement ma mission, mais j'appelle aux autres ». Aussi à jouer leur rôle, notamment les collectivités territoriales.
Le font-elles correctement et suffisamment?
Alors, je vais vous dire, le drame du moment, c'est la baisse de l'investissement des collectivités locales sur la culture. Pourquoi? C'est que vous avez eu une diminution très importante des dotations de l'État aux collectivités territoriales. Et à un moment de crise économique, de crise de l'emploi, c'est très difficile, c'est vrai, pour les collectivités locales indiennes. Je maintiens mon effort sur la culture parce qu'en plus, il n'y a aucune obligation. Et ça, c'est un des problèmes aujourd'hui de la culture. Il n'y a pas de dépenses obligatoires en matière culturelle pour quel que soit le niveau de collectivité locale. Donc là, vous avez un enjeu très important.
Et justement, à ce sujet, Aurélie Filippetti, dans le journal La Croix, vous plaidez, vous, pour un engagement pluriannuel des collectivités à ne pas porter atteinte au crédit culturel, ce serait une façon de sanctuariser des budgets. La question, elle est essentiellement budgétaire pour vous. Est-ce qu'il peut aussi y avoir des problèmes parfois d'absence de volonté politique de promouvoir justement une offre culturelle?
Ah, oui, tout à fait. Mais d'abord, il y a effectivement un problème budgétaire parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une crise difficile. Il y a certaines collectivités, pas toutes heureusement, qui diminuent les budgets consacrés à la culture. Donc moi, je serais assez favorable à ce qui est, comme le disait François de Mazières, une sorte de seuil minimum d'investissement en matière culturelle et que, en tout cas, ce soit une compétence obligatoire pour tous les niveaux de collectivités. Et puis, il faut
ce qui ne réglerait pas forcément la question de l'affectation après
non,
de ces crédits.
Non, mais bon, c'est normal. Mais ensuite, il faut que l'État s'engage pour que les collectivités puissent s'engager derrière. Et même s'il y a une annualisation des budgets, il faudrait quand même être capable de passer des sortes de contrats entre l'État et les collectivités locales pour que sur une mandature, enfin, eh bien, il y ait, en quelque sorte, ou sur 3 ans au moins, qu'il y ait une progression de ces budgets et en tout cas une visibilité pour les acteurs du monde culturel qui ne peuvent pas toujours être en train de se demander à quelle sauce ils vont être mangés et si l'un diminue la subvention, qui va la compenser, etc. Donc c'est une question presque de sécurité pour les créateurs et pour les structures. Et puis après, il y a un autre risque qui est le risque dans certaines collectivités d'une forme d'immixtion dans les programmations, une volonté de contrôle. Ça existe aussi, on le constate parfois. Une volonté de dire, si vous ne programmez pas des choses ou si vous programmez des choses qui ne me plaisent pas, je vais vous diminuer vos subventions ou bien je vais donner mon avis sur la nomination de tel ou tel directeur d'établissement. Ça, c'est un risque, heureusement marginal, mais qui existe. Et là, il faut rappeler qu'il y a un principe, c'est qu'en matière culturelle, il faut absolument laisser la liberté de de création, bien sûr, mais aussi la liberté de programmation, elle doit être totale. Et ce n'est pas une collectivité, ce ne sont pas les élus qui doivent choisir, et selon quels critères d'ailleurs, les œuvres artistiques qui méritent d'être subventionnées ou pas.
Quelle est la forme de votre intervention à vous dans la politique culturelle qui est menée dans la ville de Versailles, François de Mazières, dont vous êtes le maire, je le rappelle?
Alors, je pense qu'effectivement, il ne faut pas que les élus se substituent aux artistes, c'est évident. Par contre, je crois que les élus doivent être très engagés. Parce qu'on disait tout à l'heure que la culture, c'est une affaire de passion. Et il est très dangereux d'avoir des élus qui disent « moi, finalement, c'est pour ma affaire, c'est d'autres qui s'en occupent ». Non, il faut que les élus aient vraiment envie de défendre le projet culturel. Ce qui veut dire qu'ils soient en capacité de dialoguer réellement avec les artistes, avec tous ceux qui construisent finalement le beau.
C'est une notion très importante. Ça tombe bien justement, le beau. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait vous amener, j'allais vous poser la question suivante, qu'est-ce qui pourrait vous amener à refuser des projets culturels? C'est-à-dire, à partir du moment où vous considérez que ça ne promeut pas le beau, là vous dites, bah non, ça ce n'est pas pour nous, c'est pas pour Versailles.
Non, alors attendez, soyons clairs. Je vous dis ça parce que je pensais, et vous m'avez coupé à ce moment-là, je voulais parler de l'esthétique urbaine. Parce que la première appréhension de la culture, c'est quand vous êtes dans une ville et quand vous avez une ville qui est mal construite, l'architecture fait partie de la culture, vous avez à ce moment-là pas la capacité de vivre de ce qui est cette appétence, cette volonté de vivre dans l'esthétique. Et il y a une volonté esthétique dans la culture, il ne faut pas le nier. Et donc je crois
avec cette approche,
que je voulais dire,
le centre Pompidou n'aurait peut-être jamais vu le jour.
Non, pas du tout. Mais pas du tout. Au contraire. Moi, écoutez, c'est un sujet en tant qu'élu, je suis très investi sur ces questions-là. Et je prenais cet exemple pour vous dire, il ne faut pas que l'élu, au nom du fait qu'il ne doit pas s'investir, au nom du fait qu'il ne doit pas avoir de goût propre, n'ait pas la possibilité de dire il faut être exigeant en ce domaine. Parce qu'à ce moment, vous n'auriez eu justement jamais de centre Pompidou. Si le président de la République, Pompidou, n'avait pas dit « je veux qu'il y ait une trace de l'époque contemporaine », il n'y aurait pas eu le centre Pompidou. Et donc c'est le danger à dire qu'il ne faut pas se mêler de la culture, qu'il ne faut pas se mêler du beau, le danger c'est vraiment d'être totalement, alors pour le coup, passif.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas se mêler de culture, il faut être passionné, ça on l'a dit tout à l'heure. Mais Georges Pompidou, il était passionné, il avait envie d'avoir un centre qui permette de montrer l'art contemporain, mais aussi de dialoguer avec la bibliothèque, etc. Mais en même temps, ce n'est pas lui qui a choisi le projet architectural. Il a créé un jury présidé par Jean Prouvé, avec des figures extraordinaires d'ailleurs de l'architecture du XXe siècle. Et c'est ce jury présidé par Jean Prouvé qui a choisi le projet architectural. Et quand Pompidou a dit ça, il a simplement dit, il a pas dit ouh là là, il a simplement dit ça va faire parler.
Ouais, et ça va faire crier.
Mais il a respecté la souveraineté du jury. C'est ça qui est formidable.
Bien sûr, je suis d'accord. Mais par exemple, prenez un livre très intéressant qui a été écrit récemment par Laurence, que c'est La Grande Arche. Vous voyez la passion qu'il y a eu dans le dialogue entre, justement, François Mitterrand.
Voilà, à propos de la Grande Arche de la Défense à Paris.
La Grande Arche de la Défense à Paris. Et l'architecte. C'est ça, je veux dire. C'est pas du tout aller imposer une vue. Mais c'est d'avoir cette capacité de dialogue. Parce que les artistes, ils vous disent toujours qu'au fond, la totale liberté, c'est pas une bonne chose. La création, elle naît souvent aussi avec un minimum de contraintes. Contraintes, c'est-à-dire un cahier des charges. Et c'est ça mon propos, c'est de dire vous avez une vraie volonté artistique, elle s'exprime à travers des cahiers des charges. Et après, une fois que le cahier des charges est donné, bien entendu, il faut respecter la liberté de l'artiste.
Guillaume Coubert.
La France a une longue histoire, donc elle est héritière d'un patrimoine très important, notamment un patrimoine bâti, mais pas seulement, aussi des institutions, etc. Est-ce que ce patrimoine n'est pas parfois un petit peu écrasant, notamment en termes budgétaires, mais pas seulement, Aurélie Filippetti? Est-ce qu'il faut consacrer beaucoup d'énergie et de moyens au maintien du patrimoine?
Moi, je considère qu'on n'en consacre pas assez, finalement, au maintien du patrimoine. On a un budget du patrimoine en France qui est de l'ordre de 750 millions d'euros à peu près. Par rapport à l'ensemble de notre patrimoine, c'est finalement très peu, hein, et on pourrait consacrer beaucoup plus d'argent sans que ce soit dommageable aux finances publiques. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça crée de l'emploi, beaucoup d'emplois. matière de restauration des monuments, etc., de travaux publics, que nos musées, par exemple, eh bien, ils attirent beaucoup de monde, et que c'est pas seulement les grands musées parisiens, d'ailleurs, qui attirent du monde, hein, partout sur le territoire. Donc, on pourrait avoir une politique encore plus ambitieuse, mais ça nécessite des moyens. Il faut pas non plus dire que ça peut se faire sans moyens. C'est important. La numérisation aussi, puisqu'on parlait du numérique tout à l'heure, c'est un enjeu majeur. Il faut qu'on garde la maîtrise de cette numérisation. Parce que si on donnait, par exemple, à Google la possibilité de numériser, ils nous le feraient gratuitement, ça c'est sûr. Seulement après, c'est eux qui auraient la clé de notre avatar numérique, de notre patrimoine.
Ça veut dire que les moyens, ce sont des moyens qui doivent être essentiellement des fonds publics, ou bien est-ce que, comme on le voit se développer quand même de plus en plus, il y a du mécénat qui existe et qui est un apport qui semble aujourd'hui en tout cas essentiel à l'existence d'une politique culturelle, François de Mazières?
Pour le patrimoine, il est essentiel effectivement qu'il y ait des financements publics. Aujourd'hui, Aurélie Fénépétier le rappelait, on tourne autour de 800 millions dans les bonnes années, on est tombé plutôt à 730 millions. C'est capital. En fait, vous avez trois dimensions dans la politique du patrimoine. Vous avez ce qu'on appelle le patrimoine monumental, on va dire, c'est les bâtiments. Vous avez les musées, et c'est à peu près une part égale dans le budget du ministère, et puis vous avez tout ce qui est l'archéologie. C'est essentiel qu'on maintienne ces financements. Et il faut bien dire que dans une période de restriction budgétaire, c'est malheureusement ce domaine qui est le plus souvent amputé. Ouais. C'est toujours comme ça.
Pourtant, ça a un effet boule de neige.
Et ça fait un effet boule de neige, parce que ce qui se passe, c'est quand vous ne faites pas les travaux en temps utile, quand vous ne réparez pas la toiture d'un bâtiment en temps utile, eh bien, ça va vous coûter beaucoup plus cher 10 ans plus tard, parce que là, il va falloir reprendre aussi les murs. Et tous les amoureux du patrimoine le répètent sans arrêt, il faut faire attention parce que cette politique erratique des financements publics n'est pas bonne du tout. Alors, sur la question du mécénat, elle est fondamentale. Pour moi, si vous voulez, la dernière grande loi, parce que c'est une loi qui est simple, qui est visible, c'est la loi sur le mécénat.
La loi Aillagon. À laquelle vous avez contribué, je crois.
C'est vrai qu'à l'époque, j'étais effectivement au cabinet du Premier ministre en charge de ces dossiers. Mais en dehors de cette petite remarque que vous me faites, je crois que tout le monde reconnaît qu'elle a eu un effet démultiplicateur important. Parce qu'elle a permis à beaucoup de gens de participer au financement de la culture et des entreprises. Et moi, je voudrais souligner par exemple quelque chose comme la Fondation du patrimoine. Vous voyez, la Fondation du patrimoine, ça permet de mobiliser sur le terrain des tas de gens passionnés.
Brièvement, Aurélie Filippetti, sur la question de la place du mécénat aujourd'hui. Alors, on vous écoute tous les deux depuis une quarantaine de minutes et on voit qu'on peut être de gauche, de droite et avoir quelques nuances, mais en tout cas, finalement, une approche assez commune de ce que doit être une politique culturelle. Que là, il pourrait y avoir une forme de dissension, peut-être un mécénat qui aurait pris trop de place parce que l'État aussi aurait profité de cette loi pour se désengager de la politique culturelle.
Non, parce que pour moi, le mécénat est complémentaire de l'investissement public et ne s'y substitue pas. C'est ça qui est important. Après, le mécénat doit avoir des règles. Et là, il y a des cahiers des charges, il y a des chartes éthiques. Il faut sans doute les renforcer. Hein. On avait lancé l'idée d'une charte éthique au ministère de la Culture sur le mécénat. On n'est toujours pas parvenu. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas que... il y a eu quelques scandales récents avec des mécènes qui n'étaient pas très fréquentables. Bon, il faut pas que ce genre de choses puisse se reproduire. Mais pour moi, c'est absolument indispensable. Et c'est même un geste citoyen. Faut pas non plus voir que les grands mécènes, les milliardaires, etc. Mais quand on fait... Mais oui, la Fondation du patrimoine, c'est ça. On fait appel à la solidarité de l'ensemble des Français et pour aussi bien les trésors nationaux, de la restauration. C'est un geste de citoyenneté culturelle.
Oh bah j'ai essayé de vous fâcher, j'y suis pas arrivé. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Bon, il est Philippe
la
Petit
culture
et
réunie, c'est bien connu.
Et on peut le voir, d'ailleurs, on peut le constater dans l'édition du jour du journal La Croix, dans laquelle justement vous évoquez toutes ces questions. Merci à vous, j'en profite juste puisqu'on a parler du Centre Pompidou pour vous signaler que à l'occasion de cet anniversaire, France Culture sera au Centre Pompidou ce samedi en direct et en public de 12h30 à 18h et puis consacrera également une nuit spéciale dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, un grand merci à toute l'équipe du Grain. J'en profite pour saluer l'arrivée de notre nouvelle stagiaire Louise Fuseau. Demain, ce sera le Club des idées du Grain à partir de 18h20 avec la question suivante. Qui sera encore candidat le 23 avril prochain ? Suspense.